Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, ce matin, pour vous servir. Voici les sujets du jour. Comment prévenir les incendies dans nos habitations, les incendies dans nos quartiers, les incendies à répétition, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs. Nous recevons pour en parler Monsieur Godefroy Ilunga, Mwana Chenga. Il est consultant expert en sécurité. Monsieur Godefroy Ilunga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi.
Bienvenue dans cette émission pour échanger avec nous autour de la problématique des incendies. La question vous intéresse, le sujet vous intéresse. Composez déjà le 081 82 82 827. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. RDC Coupe du Monde 2026, que faire pour être qualifié? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre équipe nationale soit qualifiée à la Coupe du Monde 2026, 51 ans plus tard? On en parle dans cette émission avec Pierre-Célestin Kabalamouanamboui, président de l'Association des journalistes sportifs de la RDC. On aura également Maître Adrien Iloba Kouéi, analyste sportif. Pour participer à ce programme de la vie au quotidien, composez déjà le 081 82 82 827. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Debs Vita assure la mise en onde de cette émission. Meshak Mboutamoutou assure la retransmission live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Naomi Moutou qui est à la coordination et à la réalisation. Jody Daniel au micro. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, nous parlons aujourd'hui des incendies à répétition dans nos quartiers. Vous savez, la répétition des incendies dans nos quartiers suscite des interrogations sur les respects des normes de sécurité. Généralement, les maisons, immeubles, marchés, véhicules et autres biens sont dévorés par les feux sous les regards impuissants des propriétaires. Les dégâts matériels sont énormes et parfois il y a des pertes en vies humaines sont enregistrées. Par exemple, la ville de Bukavu a été de nouveau frappée le 26 août dernier par un nouvel incendie dans la commune de Kadutu. Environ 1000 habitations construites en planches ont été réduites en cendres. Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Et cette ville souffre d'un manque d'équipement de lutte contre les incendies. Et il y a des incendies à répétition à Bukavu ainsi que dans d'autres villes du pays. Et souvent, les interventions viennent de manière tardive et les feux ont déjà tout détruit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les incendies à répétition dans nos quartiers? Et souvent, qu'est-ce qu'on voit quand il y a incendie? C'est les coups de l'émotion. Juste après l'émotion, et puis voilà, on oublie, et puis rien n'est fait. Monsieur Godefroy Ilunga est consultant, expert en sécurité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi.
Bien, nous parlons des incendies aujourd'hui. C'est quoi un incendie?
Effectivement, vous avez bien commencé.
Oui.
L'incendie, c'est un feu accidentel. Ce feu est aussi inhabituel et ce feu endommage des personnes et des biens. Voilà la brève définition de ce que c'est l'incendie. Mais par ailleurs, on reconnaît aussi l'incendie outre-mer. Le fait seulement qu'il y ait feu à la brousse, c'est aussi l'incendie. Feu au niveau de qui dégage de fumée et qui crée l'incommodité, c'est aussi l'incendie.
Bien. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi nous on assiste à des incendies à répétition dans nos quartiers, dans nos maisons, etc. Qu'est-ce qui est à la base de cela?
D'abord, monsieur Jody, je voudrais vous dire que le droit de la protection des personnes, enfin la mission de la protection des personnes et de leurs biens, c'est une mission révolue à l'État congolais. C'est-à-dire, c'est un droit régalien que le ministère de l'Intérieur assure sur les biens et sur les personnes qui est son patrimoine, bien entendu. Alors, s'il faut parler de cas d'incendie à répétition, c'est que l'État n'a pas assuré correctement son devoir ou encore ses obligations du fait que ça appartient à l'État de disposer de moyens de lutte anti-incendie et aussi d'assurer cette prévention incendie qui consiste à plusieurs faits dont on pourra énumérer si vous m'en donnez le temps.
D'accord. Alors, on y va tout de suite. Alors, quelles sont les causes réelles des incendies? Parfois, on parle de court-circuit, mauvaise connexion quelque part, etc. Quelles sont les causes réelles des incendies?
En fait, si je dois y aller d'une manière professionnelle, je dirais que les causes, les différentes causes d'incendie, c'est d'abord il faut d'abord définir plutôt ce que c'est la combustion. Parce que quand on parle de l'incendie, on voit la combustion.
Oui.
Et la combustion, c'est quoi? C'est une réaction chimique quand un corps est mis en présence de la chaleur et de l'oxygène. Voilà ce que c'est
la combustion.
Maintenant, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait une source auxiliaire de la chaleur. Et la source auxiliaire de la chaleur peut être des étincelles, ça peut être aussi la foudre, ça peut être aussi le court-circuit électrique, ça peut aussi être une explosion, ça pourrait être aussi le frottement de deux corps. Voilà les sources auxiliaires de la chaleur qui peuvent donner naissance à un incendie.
Voilà, ce sont là les... Mais ici chez nous, prenons les cas chez nous ici. Souvent, on parle des bougies, quelqu'un qui était endormi et qui a laissé une bougie allumée, et puis ça peut brûler la maison, ça peut être un court-circuit au niveau de la logette, etc. Vous avez sûrement répertorié les différentes causes des incendies.
Exactement.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Exactement. J'ai parlé d'une manière professionnelle, mais d'une manière vulgaire.
Voilà.
D'où viennent les incendies? Les sources différentes d'incendies sont les courts-circuits électriques, premièrement. Deuxièmement, nous avons le feu nu. Feu nu, c'est comme vous venez de l'illustrer, la bougie.
Oui.
Nous l'appelons feu
nu. Le feu nu.
Voilà, ça dit il n'est pas couvert.
D'accord.
Voilà. Nous avons aussi la préparation ou bien le mauvais usage de la préparation à la cuisine par maman.
Oui.
Et s'il laisse la casserole longtemps sur le feu, ça peut créer aussi l'incendie.
Voilà.
Nous avons aussi la foudre. Les foudres s'abattent et souvent il y a une ignition. J'avais remis aussi quelque chose d'une manière professionnelle. Une autre source, c'est l'ionisation, c'est-à-dire les ions positifs qui se croisent, qui créent une explosion. C'est aussi une source de la chaleur.
Mmh. Voilà. On parle aussi des raccordements frauduleux qu'on appelle les daoulages à Bukavu, par exemple.
Exactement. À Bukavu, nous avons un sérieux problème qui est dû, premièrement, au court-circuit électrique, parce que les maisons dans les banlieues de la ville de Bukavu est constituées de matériaux combustibles, c'est-à-dire des matériaux qui prennent feu rapidement. Les planches sont les matériaux utilisés dans le banlieue de Bukavu, à Kadutu et aux alentours.
Oui.
Alors, une fois qu'il y ait un court-circuit électrique et que ça embrase ce bois,
c'est fini,
c'est parti. Et c'est comme vous venez de le voir, le 26, il y a eu cette catastrophe-là qui a consumé plus de 1000 maisons dans le banlieue de Bukavu. Et malheureusement, à Bukavu, il n'y a pas des équipes de secours,
oui,
c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, et il n'y a pas de bouche d'incendie.
Mais avec tous ces incendies à répétition, ça n'a pas motivé les responsables à mettre en place les équipes qui peuvent intervenir en cas de problème.
Je venais de souffler quelque chose tout à l'heure, que c'est un pouvoir régalien. Pouvoir régalien, c'est-à-dire c'est l'État qui doit prendre des mesures de protection des personnes et leurs biens. Et à Bukavu, malheureusement, nous n'avons pas de bouche d'incendie. À Bukavu, malheureusement, nous n'avons pas de caserne pompier. Et même si une caserne existe, c'est sans équipement. Il y a eu quelqu'un de bonne foi qui a donné un camion citerne où on a adapté une motopompe, mais qui ne sait pas parfois rouler jusqu'à atteindre les banlieues de la ville. Ça, c'est aussi un problème. Mais vous comprendrez que c'est aussi une faute à accorder aux urbanistes. Autrefois, les urbanistes, quand ils construisaient des villes ou des cités, ils disposaient déjà de bouches d'incendie.
C'est quoi une bouche d'incendie?
Une bouche d'incendie, c'est une source, c'est une conduite souterraine d'eau à forte pression qui est destinée uniquement à l'extinction de feu. Voilà ce qu'on appelle bouche d'incendie.
Et on doit avoir des bouches d'incendie un peu partout.
Effectivement, ça allège la tâche. Vous vous imaginez, avec les embouteillages que nous avons à Kinshasa, un camion citerne qui doit quitter la Gombe pour aller intervenir en Djili?
Ouais, c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est pour cela que les urbanistes, autrefois, avaient disposé des conduites souterraines qui pouvaient être surmontées de ce qu'on appelle stand pipe, donc un robinet, où on peut cueillir directement des eaux à travers des tuyaux de refoulement et avec des tuyaux de refoulement connectés avec des lances, et on pouvait attaquer directement le feu en constituant une ligne d'attaque. Ou encore, ces mêmes bouches pouvaient ravitailler les camions citernes anti-incendie, monsieur Jordi.
Voilà. Bien, nous parlons des incendies. Comment les prévenir? Eminent Mwanda nous appelle de Bukavu, Platini est en Bandaka et Blaise Saïdi à Kisangani. Pour intervenir, composez les 081 82 82 827. Nous parlons des incendies aujourd'hui dans Okapi Service. Eminent Mwanda de Bukavu, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne, particulièrement Madame Naomi. Moi, j'ai une objection, soit un point de vue. Je sais très bien que les incendies récurrents ne sont pas une fatalité, mais ils sont souvent le résultat d'un manque de prévention, d'imprudence et de défaillance institutionnelle. Il est donc urgent d'agir collectivement État, autorité locale et citoyen pour protéger les vies humaines. Je voulais poser la question à l'invité. Quels sont le...
Oui? Allô? Voilà, je pense qu'il y a un souci avec Eminent. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, je salue l'invité.
Quelle est votre question par rapport aux incendies?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui de m'avoir associé dans ce débat. Et avant de poser ma petite question, j'ai un témoignage dans la ville de Mbandaka, où il y a quelques mois passés, on a y assisté dans l'incendie, en plein centre-ville de Mbandaka, où tout le monde vient et regarde comme ça. Il n'y a pas l'anti-incendie sur place, y compris les autorités, ils regardent comme ça, personne ne demande, je fais maintenant quoi? Et l'incendie commence jusqu'à ce que ça ait fait eux-mêmes. Et maintenant là, ce que je pose comme la question, parce que je pense sur toujours le cas de la ville de Mbandaka, où dans le centre-ville de Mbandaka, dans le milieu, il y a des gens, il y a aussi des dépôts, ce qu'on appelle des dépôts de carburant, partout, etc., à travers la ville. Et souvent, ça allume à tout moment, et ça perturbe même l'ordre public. Moi, la question que je vais poser à l'invité, dans différentes villes, je ne parle pas sur le cas de la ville de Mbandaka, mais aussi de d'autres villes qui n'ont jamais, ce qu'on appelle l'anti-incendie. Et aussi, l'anti-incendie doit se faire là où il y a un incendie, soit au niveau du centre-ville ou soit dans un coin. Mais il se pose un problème dans de différentes villes ou soit la ville de Mbandaka, où l'anti-incendie pose un sérieux problème. Alors l'invité, est-ce que l'invité peut nous expliquer, parce que lui-même il a expliqué, lorsqu'il n'y a pas l'anti-incendie, ou soit lorsqu'il y a l'incendie, qu'est-ce que la population peut faire? Est-ce qu'on peut commencer à jeter de l'eau pour qu'on éteigne cet incendie-là? Maintenant, qu'est-ce que l'État congolais prévoit dans d'autres villes qui ne disposent pas de l'anti-incendie? Qu'est-ce que le gouvernement congolais prévoit autour de ça?
Bien, merci Platini de Mbandaka. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour cher Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'auditeurs et auditrices de la radio Capitale.
Quelle est votre question Blaise?
Oui, avant de poser quelques questions, cher Jody, je vais signaler ici que la ville de Kisangani ces derniers temps est victime dans cette situation d'incendie. Pas plus tard, même hier, non loin de rond-point du canot, à 19h05 de Kisangani, il y a une boutique qui a été victime feu. Dans cette situation. Oui. Et le 25 août 2025, il y avait l'imprimerie surnaturelle qui était aussi victime dans cette situation. Et, cher Jody, il faut noter ici que non, cette imprimerie de surnaturelle, c'est la grande même dans la vie de Kisangani. Vraiment, lorsque nous sommes victimes avec l'incendie de cette imprimerie, vraiment c'est presque toute la vie de Kisangani.
Tout était complètement voilà. Brûlé et on n'a rien récupéré.
Vraiment, c'est le centre, cher Jody. C'est le centre.
Et il n'y a pas eu des interventions de... Est-ce qu'il n'y a pas eu des interventions pour éteindre le feu?
C'est toujours en retard. C'est toujours en retard. Une heure.
Une heure
et
après.
La place, est... oui. Et la place est où il y avait surnaturel, cette imprimerie, et la mairie, c'est à peu près 200 mètres. Hein? À peu près 200 mètres. Bon, vous savez toujours l'administration, hein? Pour que cet anti-incendie arrive ainsi de suite, c'est un processus.
Mais est-ce qu'à Kisangani, il y a des véhicules anti-incendie au niveau de la mairie?
Il y en a, oui, okay. Il y en a. Mais il y a un peu de problème, hein, puisque même lorsque ça arrive là-bas, soit il y a problème de pompe, ainsi de suite. Même hier, moi-même, j'étais témoin oculaire là, oui. Et ce camion était venu toujours en retard. Et le camion était venu en retard pendant que le feu était déjà maîtrisé. Le feu était déjà maîtrisé. Et je dois aller un peu à quelques questions. La première question, cher Jody, quelles sont les leçons tirées des incendies récents pour améliorer la sécurité urbaine? La deuxième question, comment la sensibilisation des habitats peut-elle contribuer à réduire les risques d'incendie? Et pour chuter, quelles stratégies de prévention peuvent être mises en place dans les quartiers et les quartiers à forte densité? Voici les trois questions que l'invité peut nous éclairer, cher Jody. Merci.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. Monsieur Godefroy Ilunga, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Merci, chers auditeurs. Je voudrais bien commencer avec Platini en Mbandaka. Platini nous a eu une préoccupation tout en nous illustrant le cas d'incendie qui se sont produits dans un dépôt de carburant et aussi, je sais pas, dans une résidence, quelque chose comme ça. Il a sa préoccupation était comment prévenir les incendies.
Que faire en cas d'incendie? Lorsqu'on est devant un cas d'incendie, généralement c'est la panique. Les gens ne savent plus comment se comporter.
Voilà, j'y vais d'abord pour présenter comment prévenir les incendies. La prévention incendie se fait par trois différentes façons. La première, c'est d'abord par information. L'information, c'est la sensibilisation, bien entendu. Sensibiliser la population parce que l'incendie est un risque particulier pour toute entreprise. Et cette information se fait par l'affichage des pictogrammes.
C'est quoi les pictogrammes?
Les pictogrammes, ce sont de courtes phrases qui sont mises sur des panneaux où l'on vous dit que cet endroit est susceptible de prendre feu et qu'on interdit, par exemple, défense des fumées.
Ok.
Ouais. Et il y a aussi des pictogrammes qui vous disent n'approchez pas les flammes nues. Vous trouverez ça sur un triangle à fond blanc avec bordure rouge.
Oui.
Là, vous comprendez qu'il y a avec point d'exclamation, il y a un danger.
Ou à la station service,
à la
quand
station
vous allez, on vous dit, il faut éteindre le moteur.
Il faut éteindre le moteur. Alors voilà, ce sont ces mesures préventives par information. On le met sur le pictogramme et on illustre aussi le danger qui est dû à cela. Par exemple, défense des fumées, on met une cigarette sur un fond blanc et un fond blanc circulaire et on barre. C'est juste pour dire que quelqu'un ne peut pas lire, mais il peut s'imaginer que on interdit de fumer à cet endroit. Ce sont les pictogrammes. Voilà. Ces pictogrammes, on ne s'arrête pas à les inscrire en français ou en anglais. Ça va même dans les langues vernaculaires. Hein? Si on dit défense des fumées, c'est en français. On le dit aussi en anglais, no smoking. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut le dire aussi en Chiluba, par exemple.
Voilà. Il faut les dire dans toutes les langues.
Mbikandikibwa, Kuna, Fuanka.
Fuanka.
Par exemple.
Ouais.
Et en Kikongo, tu peux me compléter?
En tout cas, je n'ai aucune idée.
Kuna, Siku, Vert.
Ok.
Voilà. Kuna, Likaya, Vert. Voilà. En Swahili, on peut dire Inakataza, Kufuta, Tumbako. Okay. Voilà, c'est ça. La sensibilisation, c'est ça. La prévention incendie par information. Maintenant, il y a aussi la prévention incendie par disposition. Je crois que mon ami Blaise de Kisangani peut me suivre. Par disposition, c'est-à-dire, on met des matériels de lutte anti-incendie à des endroits susceptibles de prendre feu. C'est comme ça que vous trouverez sur les stations bac à sable.
Il y a les bacs à sable. Ouais.
Vous trouverez sur les stations les extincteurs. Vous trouverez aussi à la cuisine ou dans des grandes cuisines des internats ou des restaurants les blankets, les couvertures anti-feu.
Oui.
Voilà. Alors, tous ces matériaux-là, les matériels sont disposés comme prévention anti-incendie, mais ça va aider à la lutte anti-incendie, c'est-à-dire ça va aider à combattre le feu quand ça arrive, parce qu'on dit c'est le premier habitant qui découvre le feu, qui le combat.
Et qui donne d'abord l'alerte ou qui essaye de d'éteindre le feu.
Il donne l'alerte et il commence le combat. Le feu, c'est un adversaire. Un feu accidentel, c'est toujours un adversaire. Je dis alerter et reconnaître le matériel qui brûle, c'est-à-dire le combustible, et combattre ce feu. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas la reconnaissance des matériaux qui brûlent, vous risquerez de prendre de l'eau pour jeter sur un sinistre dû au carburant, par exemple l'essence, et là c'est pour faire en sorte que la propagation de feu puisse s'étendre beaucoup plus loin.
Voilà. Donc tout feu n'est pas à éteindre avec de l'eau, on ne peut pas utiliser l'eau pour... Il y a des spécifications, il faut le dire.
Pas du tout, Monsieur Jordi. Oui. C'est pour cela que nous classifions le feu sous quatre catégories. Nous avons le feu de classe A, le feu de classe B, le feu de classe C et aussi le feu de classe D. Alors, il faut adapter chaque classe à un moyen approprié d'extinction. La classe A, c'est la classe de feu solide, c'est la classe où on utilise toutes sortes de matériel pour combattre ce feu. Donc, c'est pour cela qu'il y a un extincteur qu'on appelle extincteur polyvalent, c'est l'extincteur à poudre. Cet extincteur à poudre est composé de la bicarbonate en soude, et c'est peut-être amplifié avec la silicate. Ça a un pouvoir de pouvoir d'étouffer le feu. Okay. Donc ça éteint
le feu solide. Comment reconnaître un feu solide, par exemple, voilà, de la classe A?
Oui, le feu solide, ce sont les feux qui embrasent les tissus, qui embrasent le bois, qui embrasent le métal, qui embrasent même le corps humain. Ça, ce sont des feux du classe A.
Ok.
De la classe A, je vais dire. Oui. Tandis que le feu de la classe B, c'est la classe que nous appelons classe de feu liquide et liquéfiable, c'est-à-dire de matière liquide. Et ce feu, on ne peut pas l'attaquer avec n'importe quelle eau ou quel matériel. Ça demande une certaine spécificité. On utilise de l'eau, mais ajouté avec des additifs que nous appelons la saponine ou encore un dissolvant qui crée de la mousse, la saponine qui crée de la mousse pour coller et maîtriser le feu au sol. Nous avons
le feu de la classe C.
Non, j'ai pas terminé, monsieur Jordi. Terminé pour la classe B.
Oui.
Pour la classe B, on utilise aussi des extincteurs à COD. C'est l'anhydride de carbone. Cet extincteur a un pouvoir d'éteindre le feu à l'intérieur d'un bâtiment.
Okay.
Et c'est très efficace et ça ne crée pas de dégâts monstrueux parce que même si propulsé sur les aliments, on peut consommer encore ces aliments.
D'accord.
Parce que ça ne donne pas des incommodités sur ça. Oui, pour classe C.
La classe C, voilà.
Ouais. Classe C, c'est la classe de feux électriques. Ce sont des feux issus ou d'origine électrique. C'est pour ça que nous avons dit au demeurant que les sources auxiliaires de la chaleur figurent aussi les courts-circuits électriques. En ce moment-là, on ne peut pas utiliser de l'eau. C'est prohibé. On utilise l'extincteur à poudre parce qu'il est polyvalent, bien entendu, et on n'utilise pas l'extincteur à COD parce qu'il y a des liquides, mais par contre, on va utiliser du sable ou du gaz inerte.
Voilà. Et la troisième catégorie?
La quatrième catégorie,
c'est classe D. C'est quel genre de feu, là? Oui.
Ouais. Ce sont des feux d'origine chimique. Tout est chimie, mais chimique autre que les carburants. Là, on parle des acides, par exemple, des acides sulfuriques. Ce sont des classes, c'est parmi la classe D de feu. Là, on utilise gaz inerte, du ciment et du sable.
Mais là, ça, la population, ça, c'est vous les spécialistes, vous maîtrisez ça, mais la population ne saura pas à quel type de feu on a affaire et quels sont les éléments correspondants pour éteindre ce feu-là.
Merci beaucoup, Monsieur Jourdi. Cette question est vraiment capitale parce qu'il s'agit des habitants les plus proches de ces sinistres de feu. Mmh. Ils n'ont pas tous ces matériels que je suis en train de citer, mais par contre, en prévention pour la lutte anti-incendie, nous avons des moyens du type traditionnel, nous avons aussi des moyens du type moderne. Mmh. Type traditionnel, en ce qui concerne le feu de la classe B, liquide, inflammable ou liquéfiable, oui. On utilisera uniquement du sable. Et sable, c'est un moyen traditionnel. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un seau de sable quelque part, parce que nous avons dit que toute entreprise est un risque particulier d'incendie, même votre maison, c'est aussi une entreprise. Disposez du sable dans un seau qui est déjà foutu, oui. Et mettez-le là-bas, ça va vous servir. Je crois avoir répondu à votre question aujourd'hui.
Alors, il y a eu une question. Par exemple, Blaise nous a donné l'exemple de ce qui s'est passé à Kisangani avec cette imprimerie qui avait pris feu. Imaginons que c'était la nuit et les voisins ont vu seulement le feu. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Alors que tout était fermé, pas moyen d'accéder.
Nous disons que quand le feu a déjà pris une grande propagation, c'est impossible pour un habitant de le combattre parce qu'il va s'exposer. On interdit carrément à combattre un feu qui a déjà pris une grande propagation. Seuls les spécialistes qui sont les sapeurs-pompiers qui doivent intervenir.
Mais pourquoi les sapeurs-pompiers interviennent souvent en retard? Vous avez suivi, les gens ont dit, quelqu'un a dit, ils sont arrivés une heure après. Avec le camion incendie de Kisangani est arrivé, mais il n'y avait pas de problème de pompe.
Exactement. Ça arrivera toujours si l'État congolais ne prend pas ses dispositions. Je venais de dire que c'est un pouvoir régalien de l'État. L'État congolais dispose au sein de la police les casernes pompiers qui sont conduits par la police de protection civile, mais qui est quasi inexistant. Alors, pour que ces camions anti-incendie agissent, il faut qu'ils soient proche de la cité, proche des quartiers. Donc les camions citernes d'incendie qui restent à la caserne pompier ne peuvent pas parcourir une distance de plus de 15 kilomètres. Donc chaque 15 kilomètres, c'est-à-dire chaque quartier, doit disposer d'un caserne anti-incendie. Si ce n'est pas le cas, c'est pour cela que j'ai parlé des urbanistes qui ont failli à leur mission de pouvoir, lors de la construction des quartiers ou des cités, des villes.
Par exemple, à Bukavu, là, c'est le chaos. Hein.
Oui, c'est le chaos parce qu'on ne trouvera nulle part une bouche d'incendie.
Oui.
Alors, même ici à Kinshasa, vous trouverez que les bouches d'incendie sont agglomérées à la Gombe parce que ce sont de vieilles cités. Vous trouverez des bouches d'incendie au marché de Kinshasa, au stade stade de Martyrs,
vous
voulez dire,
oui.
Et à la RTNC. Mais, fort malheureusement, même là où il y a des bouches d'incendie, il n'y a personne qui sait les utiliser.
Les gens ne savent pas qu'il y a de l'eau disponible.
Ils ne savent pas. Oui. Il y a de l'eau. C'est pour cela, si ces bouches d'incendie étaient construites dans les quartiers, les sapeurs-pompiers pouvaient s'en servir pour ravitailler leurs camions-citernes ou directement connecter des tuyaux de refoulement, constituer une ligne d'attaque et combattre le feu.
Avec l'urbanisation anarchique, faut-il condamner les urbanistes parce qu'il y a,
voilà. Exactement.
il y a de l'anarchie. On va accueillir Moïse Moussense de Kikwit et Thomas Ougeni à Kisangani, qui est à Kisangani. Moïse de Kikwit, bonjour.
Bonjour à la radio Papé.
Quelle est votre question, Moïse?
Je voulais juste savoir quelle est la première étape en cas d'incendie. En cas d'incendie, plutôt.
Voilà, quel est le premier geste à poser en cas d'incendie, c'est ça?
Oui, oui. Et la deuxième question, quels sont les différents types d'incendies?
Voilà, l'invité venait de parler, de nous donner les différentes catégories de feu, de la classe A, B, C, D. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Thomas Ougeni depuis Kisangani. Bonjour. Allô, Thomas? Allô? Oui, on vous écoute pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort.
Vous me suivez là-bas, mais c'est tardi, mais c'est jeudi.
Oui, oui, allez-y, parlez un peu plus fort parce que vous sortez très bas.
Apparemment, le micro n'a pas été activé là-bas. Je suis en ligne, bel et bien en ligne.
D'accord, maintenant on vous écoute parfaitement bien, allez-y.
Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup de la parole que vous accordez, mais c'est jeudi. Je pense que ce problème, c'est descendu, en tout cas, ça constitue en tout cas une menace sérieuse pour la sécurité de nous en tant que population ou de personnes, mais également des biens particuliers. Et on voit souvent les étendues, ça peut arriver à tout moment, mais on les voit plus dans des milieux, dans des zones urbaines. Et tout, par exemple, vous voyez la province, la ville province de Kinshasa, où il y a beaucoup de gens, où on voit des stations-service également à côté des populations. C'est sérieux problème, parce que si vous allez par exemple au niveau des stations service, vous trouverez des agents qui sont en train de travailler, ils n'ont même pas de tenues appropriées à quant à ça. Ça aussi c'est un sérieux problème. Lorsqu'on est, on veut s'engager dans des activités là où des produits inflammables là, on doit aussi adapter des comportements ou des tenues appropriées pour faire face à ça. Mais également, il y a d'abord, on ne peut pas négliger cet aspect des choses, il faut qu'il y ait la sensibilisation et l'éducation de la population. Parce qu'à la base de ça aussi, la population a un rôle à jouer dans la prévention des incendies. Je félicite la radio au Capi parce qu'il y a quand même une sensibilisation quelque part là, d'informer la population pour étudier, pour voir quelles sont les causes ou les dangers liés à l'incendie. Mais également, il y a la réglementation et la sécurité des infrastructures. C'est très important. Je ne sais pas, lorsqu'on construit des maisons, est-ce qu'on tient compte également à ce que les bâtiments doivent être conformes aux normes de sécurité des infrastructures. Je ne sais pas si ça se fait. Est-ce que nos ingénieurs, lorsqu'on construit des maisons, on tient compte également de ça? Parce que lorsqu'on construit également des bâtiments, on doit tenir compte des normes de sécurité liés à l'incendie, mais également des matériaux non inflammables. C'est très important pour détecter, mais également l'éviter à parler ici des détecteurs, c'est très important. Mais je m'en vais directement à la question que j'aimerais poser à l'éviter. La première question, quel est le rôle des écoles? J'ai vu les ceux qui m'ont précédé ont posé des questions, mais moi, quel est le rôle des écoles qui joue dans l'éducation et dans la sécurité des incendies? Ça, c'est la première question. Quelle est la réglementation qui doit être mise en place pour assurer, en tout cas, la sécurité des bâtiments, monsieur Tati? Je ne sais pas, parce qu'on a eu à faire l'émission avec l'affaire Popier ici. Il disait qu'il n'y a pas une réglementation qui doit être mise en place. Je ne sais pas par rapport à ce qui est de l'incendie. Est-ce qu'il y a une réglementation également dans ce sens? Parce que l'émission qui a été l'émission précédente, là, l'invité qui parlait, on parlait des affaires pompiers, il disait qu'il n'y a pas une réglementation qui protège ces catégories de gens-là. Mais également, je ne sais pas si l'invité est d'accord avec ça. Il faut également s'assurer auprès d'assurer pour diminuer également les coûts, monsieur Jody. Je ne sais pas si l'invité est d'accord avec ça. Parce que lorsque vous êtes assuré auprès d'un assureur, parce que dans ces pays, dans notre pays, nous avons un code d'assurance qui lie un assuré à l'assurer. C'est un cas de sinistre, ça peut être le cas d'incendie, le cas d'accident. Ça permet à l'assurer également de venir en aide. Je ne sais pas si on peut, les codes d'assurance aussi, ça peut être comme moyen à cas de problème, parce que le cas de sinistre ou de problème, ça peut arriver.
Merci beaucoup.
Moment, ça vous permet également
d'amoindrir
un peu les coûts là. Ça vous précise si l'assurer, au lieu que vous tous, ça vous puissiez prendre la
totalité. En charge de tout cela. Merci beaucoup, Thomas. D'accord, merci beaucoup. Nous parlons des incendies, comment les prévenir. Prévenir les incendies à répétition dans nos quartiers. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Je salue les auditeurs, ainsi que l'invité. Moi, je pense que les incendies, d'abord, ce sont des accidents qui arrivent partout. Si nous regardons, du côté États-Unis, je ne sais pas, les pays développés, ils connaissent aussi des gros incendies qui font une semaine.
L'effet de brousse.
Nous voyons le fait de brousse qui atteint aussi des maisons, qui ravage des hectares de maisons. Mais nous voyons aussi combien ils se battent avec tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette catastrophe-là. Nous rentrons maintenant ici chez nous. Nous rentrons maintenant dans notre pays, entre nous, dans des pays qu'on appelle respectueusement, un respect, comme j'ai dit, pays en voie de développement. Comment traitons-nous cela? Il y a aussi un problème avec la population, ou les populations de partout. Les gens qui sont en train de, par exemple, les vendeurs de carburant, de combustible. Moi, je me souviens, à Lumbashi, il y a longtemps, une famille qui était victime comme ça. Il y en a qui étaient morts, il y en a d'autres qui ont des cicatrices aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a aussi le problème que nous avons. S'il y a un incendie, ce qui n'est pas toujours souhaitable, c'est un accident. C'est peut-être dû au mauvais mauvaise installation électrique, tout ça. Mais notre État, à chaque fois qu'il y a un incendie, est-ce que intervient-il toujours à temps? Moi, je vais ici parler de notre province, par exemple, de Savolésie. Je félicite quand même les autorités parce que je vois régulièrement deux camions neufs de couleur rouge. Et la question que je me pose est s'il y a toujours une permanence d'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours de l'eau dans les camions pour qu'en cas d'incendie, que ces camions aillent pour pouvoir
intervenir. Oui.
Intervenir. Je rentre à Kinshasa. Kinshasa, ma capitale, avec le gros embouteillage. Déjà, vous imaginez la suite de mon intervention. Si jamais il y a un incendie dans notre capitale, je suppose qu'il y a toujours mort d'homme. Parce que comment se faufiler entre ces vieux bus, ces vieilles voitures, pour arriver à sauver des vies? Est-ce qu'il y a des routes spécialisées ou réservées pour ces genres d'intervention? Il n'y a pas. Je réponds parce que je suis congolais, je sais qu'on est entre nous, comme je l'ai dit. Parce que j'ai comme l'impression que Kinshasa est un peu mal organisé que les provinces. Et Kinshasa devait être bien organisé par rapport aux provinces, parce que Kinshasa, c'est la capitale, le miroir de notre pays.
Merci, Jeannot. Louemboué, pour votre intervention. Monsieur Godefroy Ilunga, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Jordi. Monsieur Jordi, je crois qu'il fallait revenir sur notre ami Thomas de Kisangani.
Kisangani, oui.
Oui. Monsieur Thomas nous a demandé quand il y a incendie, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà les trois étapes quand il y a un incendie qui se déclare. La première des choses, c'est alerter. Alerter, c'est-à-dire crier. Informer toute la population riveraine du lieu de sinistre qu'il y a feu.
Attention, il y a du feu ici.
Pas seulement attention, on peut crier « Au feu ! Au feu ! Moto ! Moto ! »
Voilà. Surtout et si ça, c'est au milieu de la nuit, par exemple.
Effectivement, ça c'est une très bonne façon de faire, oui. C'est l'alerte. En second lieu, même si vous avez alerté, il faut se déplacer, aller sur le foyer du feu. Le foyer, c'est-à-dire le lieu où...
L'origine du feu.
Oui. Là où ça a commencé à s'embraser et faire la reconnaissance des matériaux qui brûlent pour y adapter le moyen d'extinction nécessaire, M. Jordi.
Oui.
Voilà. En troisième lieu, il faut combattre ce feu-là. Nous avons dit ici combattre le feu, il faut pas toujours attendre les sapeurs-pompiers qui viendront ou qui ne viendront pas, mais il faut commencer à combattre ce feu. Nous avons dit qu'il y a des moyens traditionnels, il y a aussi des moyens modernes. Dans les moyens traditionnels, pour le combat de feu, c'est un feu naissant, un feu mineur, un feu qui commence. Mmh. C'est celui-là qu'on combat. Mais quand le feu a déjà pris une grande propagation, on ne le combat pas avec des moyens traditionnels. Et ces moyens traditionnels, c'est quoi? À la cuisine, Monsieur Jordi,
oui.
Dites à votre femme que quand l'impio dit brûle, quand ça prend feu, qu'elle, elle était sur son téléphone avec les TikTok, oui, qu'elle prenne tout simplement le couvercle et mettre sur le poêle ou sur la casserole, le feu va s'éteindre. Okay. Parce que ce qui nourrit le feu, c'est l'oxygène. Empêcher l'oxygène d'arriver sur le milieu ambiant. Ça, c'est une première. Oui. Une seconde, c'est de pouvoir utiliser de l'eau si et seulement si ce feu n'est pas de la classe B. C'est-à-dire, on utilise de l'eau. Mmh. Si ce n'est pas de l'eau, on peut même utiliser, dans les moyens traditionnels, du sable ou une branche de feuilles vertes pour tapoter sur les flammes qui commencent.
Okay.
Ou encore un seau d'eau. Voilà les moyens traditionnels pour éteindre le feu. Non seulement ça, il y a aussi une façon de combattre le feu avec un bâton. On appelle ça dispersion du combustible. Ça aussi, c'est une façon de combattre le feu.
Avec voilà. Un bâton, on va. Pouvez-vous nous en dire un peu plus avec ce bâton?
Bâton, c'est juste écarter les combustibles qui ont pris feu.
Prenons l'exemple dans une chambre, c'est un matelas qui a pris feu.
Un matelas qui a pris feu, c'est le prendre, s'il n'est pas consumé totalement, c'est le prendre et le jeter dehors. Je vous donne un exemple. Mmh. À côté de nous ici, il y a un bâtiment de Citibank qui prenait feu autrefois. Les personnels qui étaient sur ce bâtiment, ils avaient des extincteurs. Ils sont allés dans la pièce qui avait pris feu, ils ont commencé à propulser. Mais sans éteindre le feu. Pourquoi? Parce que le feu avait atteint les fauteuils, les chaises en bois.
Okay.
Alors, quand nous sommes arrivés, il suffisait tout simplement de prendre ces chaises et de les jeter dehors. Et c'est fini, on a éteint le feu. Donc, on n'éteint pas le feu. Seulement, avec de l'eau ou des extincteurs, on peut l'éteindre aussi par écartement du combustible. Voilà pourquoi nous avons toujours présenté le feu sous un triangle. Nous vous appelons triangle de feu pour donner la connaissance que le feu est composé de trois éléments.
Oui.
Il y a le combustible que nous appelons corps. Il y a aussi le comburant que nous appelons l'oxygène. Mmh. Et aussi, nous avons la chaleur. Donc, nous avons trois éléments qui constituent le feu. Il suffit, pour éteindre ce feu, d'écarter tout simplement un des éléments qui le compose. Et on a atteint l'extinction de feu.
Mais si c'est un feu qui se déclare au niveau d'une station-service ou d'un dépôt de carburant, là, il semble que c'est un feu. Je ne sais pas si c'est de quelle catégorie. La catégorie B, je pense.
C'est la catégorie B et oui. C'est la catégorie la plus dangereuse oui. où on a toujours besoin des spécialistes qui sont les sapeurs-pompiers. Mmh. Et même si les sapeurs-pompiers doivent intervenir, il y a des éléments additifs. Je vous ai parlé de la saponine et de la tutogène. Mmh. Ce sont des matières chimiques qui sont mélangées. Quand vous voyez les camions citernes anti-incendie, ils sont compartimentés. Il y a le compartiment mousse, il y a le compartiment eau. Et on y ajoute un appareil qu'on appelle le pré-mélangeur qui mélange l'eau et la mousse pour que ça soit efficace pour éteindre le feu de la classe B. Si ce n'est pas le cas, on fait appel au gaz inerte qui n'existe pas au Congo. Je crois qu'au Koweït, vous avez vu, même notre ami qui a parlé de feu de brousse aux États-Unis, on utilise les gaz inertes pour éteindre ce genre de feu dans les puits de pétrole, dans les bases pétrolières, ainsi de suite, même dans les forêts.
Les couvertures anti-incendie, on peut les avoir à la maison.
Effectivement, chaque maison peut disposer d'une
couverture. Bon, prenons le cas de Kadutu à Bukavu, parce que là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces incendies à répétition, Monsieur Godefroy Ilunga?
Merci. Je pense que vous avez une particularité. Des amours pour Kadutu ou pour Bukavu?
Bukavu, c'est là où il y a des... chaque fois, il y a toujours des cas d'incendie là-bas.
Effectivement. Mmh. Pour Bukavu, moi, votre serviteur, j'ai initié même un contact avec le gouvernement provincial. les banlieues, on ne sait pas interdire aux gens de construire avec des planches non plus. Mmh. On ne sait pas le faire. Et surtout que c'est sur des terrains accidentés. Donc, tout ce qu'il faut, c'est amener à construire des bouches d'incendie non loin des quartiers et les disposer d'un équipement approprié. Ces équipements appropriés, c'est quoi? C'est la clé de bouche. Ce sont des tuyaux de refoulement, des tuyaux d'aspiration, y compris des lances à jet réglables. Voilà une solution. Si on peut aller très loin, il faut construire des casernes pompiers dans toutes les zones, sinon les quartiers. Je vous ai dit ici, aux États-Unis, par exemple, en Virginie, vous trouverez que chaque 15 kilomètres, vous avez une caserne pompier. Chaque 15 kilomètres. Et ces casernes pompiers, tous les officiers de réserve qui sont à la retraite, ce sont eux qui s'occupent des casernes pompiers et ils connaissent bien les rues, ils connaissent bien les quartiers. Mon ami de Kisangani a dit que mais comment est-ce que pourquoi est-ce que les camions citernes arrivent en retard? Voilà exactement c'est ça. Ailleurs, il y a des routes prédisposées pour les urgences. À Kinshasa, par exemple, la route du poids lourd. C'était une route prédisposée pour les urgences et le poids lourd, bien entendu, parce que c'était un secteur industriel. Vous partez de la première rue jusqu'à 18e rue, c'est une zone industrielle, et la route de poids lourd n'était pas fréquentée par n'importe quel usager.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'État.
Voilà. Oui. Donc, l'État a failli à sa mission. À moins que vous me donniez encore la parole, oui. M. Jody, je voulais parler de... d'un autre ami qui a parlé de la tenue sur les stations, et Monsieur Thomas, je suis sûr, et de la sensibilisation construction. La tenue pour les sapeurs-pompiers a existé depuis un certain temps, mais il s'est fait que la tenue des sapeurs-pompiers était composée de fibres en amiante. Aujourd'hui, vous le savez très bien que l'amiante est à l'origine du cancer. Voilà pourquoi
on ne peut plus
on ne peut pas utiliser les anciennes tenues de sapeurs-pompiers qui autrefois résistaient à une forte chaleur. Voilà. Mais la tenue adoptée aujourd'hui en propylène n'est pas très appropriée, mais on les utilise quand même. Pour la sensibilisation, je crois que notre ami nous écoute. Oui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation.
Tout à fait.
Même notre ami qui nous a parlé de qu'est-ce que nos écoles font. Ça, c'est du devoir de l'inspecteur de l'enseignement qui peut nous appeler, nous autres, et constituer des modules appropriés pour les enfants à l'école, pour qu'ils sachent que c'est le feu ou l'incendie, c'est un risque particulier. Il faut devoir avoir des connaissances précises pour le combattre. Je passe sur la construction. La construction, nos amis architectes ou urbanistes, ils ont failli aussi énormément. Les urbanistes n'ont pas penser à des constructions de bouches d'incendie. Mais par contre, il y en a. Il y a des architectes, par contre, qui prévoient les dévidoirs. Je ne sais pas...
C'est quoi les dévidoirs?
Le dévidoir, c'est un système axial qui consiste à un tuyau d'arrosage enroulé sur un tambour avec une lance à jet réglable.
Okay.
C'est souvent 30 mètres, 25 mètres. C'est disposé pour des grands magasins comme des supermarchés. C'est aussi dans des stades, dans des bibliothèques où on peut placer des dévidoirs. Vous trouverez sur le mur un petit cage rouge.
Rouge, oui.
Oui, oui. Le signe qu'on met, le pictogramme qu'on met, c'est un tuyau enroulé comme ça.
D'accord.
Et vous devez savoir qu'il y a un dévidoir à l'intérieur et vous pouvez vous en servir.
Est-ce qu'il y a l'eau aussi est disponible déjà?
Effectivement, l'eau est disponible, mais quand vous l'enclenchez, il permet automatiquement qu'un suppresseur ou un moteur puisse donner de la pression. Au bout de cette lance, vous avez une portée de 5 mètres pour atteindre le milieu des sinistres.
Voilà, donc la prévention, je pense que c'est quelque chose de très important par rapport aux incendies, parce qu'il y a, on les souhaite pas, mais il y en aura toujours, mais il est important de savoir comment se comporter lorsque le feu se déclare. Vous avez dit premièrement, il faut donner l'alerte.
Alerter, oui.
Crier au feu. Deuxièmement, il faut localiser
le lieu des sinistres et les matériaux qui brûlent.
D'accord.
Donc le combustible.
Les combustibles. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Troisièmement, il faut combattre ce feu
s'il
est encore mineur, c'est-à-dire un feu naissant.
D'accord. Mais si le feu a déjà grandi, là, il faut faire appel aux spécialistes.
Oui, évidemment, si le feu a déjà pris une grande propagation,
oui.
Il faut, si c'est dans une maison ou dans un local, prenez soin de fermer les fenêtres et les portes
pour que l'air empêcher l'air d'entrer.
Mais Jordi, accorde-moi un peu un temps. Pour notre ami qui a parlé des assurances, il existe bel et bien une loi sur l'assurance.
Merci beaucoup, Monsieur Godefroy. Ilunga Mwana Chenga, consultant, expert en sécurité. Je pense que vous allez revenir prochainement pour qu'on poursuive cette discussion.
Vous l'avez senti, oui. Qu'on a besoin de ça.
À la prochaine.
Merci.